Merci à vous de nous accueillir, merci à la librairie Sorams de, comme c'est souvent le cas, de nous appuyer dans nos productions. Je fais juste une petite introduction. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les écologistes de Lezière, d'abord vous n'avez aucune excuse, et deuxièmement c'est pour vous dire que nous sommes une association ancienne qui va assez bientôt fêter ses 40 ans, et que nous œuvrons toute la journée avec joie et bonne humeur pour l'éducation au paysage et à la nature méditerranéenne. Donc nous sommes à la fois des apprentis scientifiques ou des vulgarisateurs scientifiques qui écoutons les chercheurs et essayons de le traduire en termes simples pour le plus grand nombre, et puis des gens qui nous activons sur le terrain pour essayer de faire en sorte que les paysages se portent le mieux possible. Et il y a du boulot. Et puis nous avons un rôle d'éditeur. Nous sommes éditeurs depuis un certain nombre d'années. Parce qu'après avoir écrit pour des bouquins pour les éditeurs, on a décidé de faire des bouquins dont on assurait nous-mêmes le nombre de pages et la taille des photos. Et donc on écrit des livres où on reçoit des écrivains qui écrivent des livres, et cette année, une année féconde, on en sort trois. Un qui est sorti au mois de juin, sur La Garrigue et ses hommes, qui était un vieil ouvrage épuisé qu'on a remodelé. Et puis il a deux coups sur coup, un qui s'appelle Terroir viticole et géologie, qui est très pointu, sur la géologie des terres viticoles du Languedoc. Et puis un qui s'appelle Stratégie, dont on va parler ce soir. Et puis on en a d'autres en préparation, dont vous entendrez parler dans les années qui viennent, ou les mois qui viennent pour les plus précoces. C'est un ouvrage qui s'est fait dans la longueur et dans la durée, dans la grande convivialité, un grand travail collectif, dont on va vous parler en détail. Et puis tout ça, le travail, il est permis parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent et qui nous aiment bien. Donc ici, on a pour cet ouvrage-là, reçu le soutien de la région Languedoc-Roussillon, du département de l'Hérault, et puis pour la première fois du Centre national du livre. C'est la première fois qu'on leur demandait quelque chose, et donc c'est sûrement une introduction à une longue collaboration avec cet organisme d'État qui aide à l'édition des livres un peu originaux, et notamment des livres scientifiques. Donc ça, c'est un livre scientifique, mais c'est un livre pour le grand public. C'est un livre qui essaye de témoigner d'un certain nombre de trouvailles récentes réalisées par les chercheurs, et notamment les chercheurs de Montpellier. Et puis nous sommes là, nous, pour essayer que ces difficultés conceptuelles, on puisse les mettre à la disposition du grand public, donc avec des grandes photos, avec des textes simples, mais pourtant rigoureux. Et c'est tout notre boulot, et c'est un vrai travail collectif pour une fois. Enfin, pour nous, c'est assez souvent l'occasion et la réalité du travail, mais c'est un vrai travail collectif. Il y a plein de gens qui ont participé à ce travail, même s'il y a trois auteurs principaux. Il y a plein de gens qui ont travaillé à des niveaux différents pour apporter et leurs conseils ou leurs remarques sur le contenu ou sur la forme, puisque nous, la forme et le fond sont deux choses du même objet. C'est aussi important l'un que l'autre, c'est très important de dire des choses rigoureuses, c'est encore aussi important de les dire de façon agréable, si possible un peu littéraire, si possible un peu en bon français, c'est le cas de ce livre, comme des autres, et en tous les cas, c'est un travail dont nous sommes très très fiers, d'autant plus moi qui suis le directeur de l'association et qui est à peine trempé dans cette affaire. Je suis tout à fait libre pour dire que c'est un travail collectif de très 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 haut niveau et qui fait la fierté de l'association, et que j'espère qu'il rencontrera un public nombreux, parce que c'est vraiment fait pour eux, pour parler de plantes communes, pas de rareté que seuls les spécialistes ne connaissent, des plantes qu'on croise un peu partout, et pas seulement dans le midi de la France. On a voulu faire un livre un peu plus grand que seulement méditerranéen, et c'est pour moi, l'objectif est tout à fait rempli d'avoir quelque chose qui soit à la fois extrêmement moderne et rigoureux, extrêmement moderne au niveau de l'iconographie, et puis tout à fait acceptable pour les gens qui veulent se donner la peine quand même de lire 3 ou 4 phrases de suite un peu compliquées. Merci à eux et belle soirée à vous.
Je poursuis avant de laisser la parole à Bertrand Schatz et à Benoît Garonne. Les présentations des auteurs ont été déjà faites au moins en partie, mais donc Philippe Martin pour une grande partie des images et photos, on en reparlera un peu. Benoît Garonne et Bertrand Schatz pour les textes. Donc je poursuis un peu l'introduction quant au contenu de l'ouvrage, stratégie végétale, petits arrangements et grandes manœuvres. Stratégie, manœuvre, c'est des termes bien militaires et guerriers, éventuellement. Pourquoi parler de stratégie? Pourquoi parler de manœuvres et pourquoi parler d'arrangements, de petits arrangements cette fois? Eh bien parce que les êtres vivants, tous les êtres vivants, dans un milieu donné, ont à vivre dans ce milieu, à assurer un certain nombre de fonctions pour vivre dans ce milieu, et que ils y sont nécessairement adaptés. S'ils n'y étaient pas suffisamment adaptés, ils en mourraient et disparaîtraient. Et ces adaptations sont le fruit de longues années, de longs milliers, de longues centaines de milliers, de longs millions d'années d'évolution du vivant. Et vous avez certainement entendu parler en termes d'évolution, de bricolage. On n'est pas là ce soir pour vous expliquer les processus de l'évolution, mais en tout cas pour dire que ce qui peut nous apparaître comme des stratégies mises en place par telle ou telle plante ne sont pas le fruit de la volonté de ces plantes-là, mais le fruit d'un certain nombre de processus qui, entre le hasard, l'apparition de nouveautés, la sélection naturelle et d'autres processus moins connus du grand public et qu'on ne développera pas ce soir non plus, donc on donnait lieu au fait que les êtres vivants sont plus ou moins adaptés aux conditions de leur vie. Donc l'ouvrage et la conférence de ce soir sont organisés en 4 parties qui reflètent ces stratégies adaptatives. La première partie, se tenir croître. La deuxième partie, être pollinisé. La troisième partie, se disséminer et germer. Et la quatrième partie, résister. Voilà. On va y revenir tout de suite. On parlait d'images, beaucoup d'images et de photos dans cet ouvrage, avec notamment une collecte d'images, y compris auprès des adhérents bénévoles de l'association, de salariés de l'association aussi, et des images en particulier de Philippe Martin. Il pourra mieux vous en parler que moi à la fin, mais un bon nombre de ces images ne sont pas à proprement parler des photos. À gauche, vous avez une photo avec une prise de vue, une mise au point, et donc des champs plus ou moins, une profondeur de champ, et donc des zones plus ou moins claires, plus ou moins floues. Et à droite, vous avez une image qui est composée de dizaines de photos. Dizaines de photos qui ont toutes été prises avec un plan de netteté, une profondeur de champ donnée, plan de netteté différent entre chaque cliché, et qui donc ont été ensuite recomposées, remoulinées en une seule image, net en tout point grâce à un logiciel. Donc ce sont de nombreuses heures de travail à la fois en termes de prise de vue, de clichés et en termes de traitement de l'image pour la composer ensuite. Voilà. Une image comme celle-ci, par exemple, avec un tapis de mousse et une petite eau frise, qui est nette en tout point, vous voyez dans les petits cadres en haut de combien de photos elle est composée. En fait, il y a là-dedans 240 photos qui ne forment qu'une seule image. Voilà, donc l'ouvrage est abondamment illustré de ce type d'image et d'autres photos plus classiques qui viennent illustrer tel ou tel phénomène et qui restent utiles en tant que tel. Se tenir croître, Benoît vous parlera d'un cas, le lierre. Oui, les végétaux ont chacun un port, une allure qui est déterminée par la façon dont ils croissent, ils grandissent et finalement ils se tiennent dans leur milieu. Là, il y a de nombreuses stratégies. Le cas le plus connu, qu'il soit chez les arbres ou chez les plantes herbacées, c'est la croissance à partir d'un bourgeon qui peut se ramifier, donner plusieurs tiges, etc. Tout cela est assez largement connu et développé dans l'ouvrage. Voilà quelques-uns des exemples qui sont traités dans le livre. Depuis les mousses, qui se développent plutôt en tapis, à partir d'un cordon rampant, invisible, en tout cas comme ça à l'œil nu, et qui se développe en tapis à la surface du sol, sur des rochers ou sur un arbre, comme on le voit en bas à gauche. Depuis les mousses jusqu'en haut aux lianes, comme la clématite flamette, ou en bas au milieu, vous allez m'aider, j'ai un trou en bas à droite, le lys maritime, et ça va me revenir, c'est tout à fait un trou. La potentille, merci Benoît. Rampante elle aussi, et le lierre dont Benoît nous donnera, sur lequel Benoît nous donnera quelques explications complémentaires. Bien entendu, le port de ces végétaux, chacun avec sa silhouette. Parfois, on parle même d'architecture pour les arbres, hein, d'architecture végétale. Le port de ces végétaux est très largement déterminant pour expliquer l'allure de nos paysages. On essaie de faire percevoir ça aussi, et vous pourrez le remarquer vous-même, selon que vous avez affaire à une pelouse d'herbes comme des graminées, à une prairie composite avec des graminées, des légumineuses, etc., à une garrigue ou à une forêt, ce ne sont pas les mêmes architectures végétales au sens très large, et ce ne sont pas les mêmes paysages que vous aurez sous les yeux. Deuxième chapitre, être pollinisé, c'est la question de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Et les stratégies sont nombreuses, depuis le transport du pollen par le vent, par l'eau, par des animaux divers, beaucoup d'insectes bien entendu chez nous. C'est la question de la rencontre entre les sexes. Chez bon nombre d'animaux, chez l'homme, c'est assez facile. Il suffit de sortir un peu, d'aller en boîte, etc. Chez les végétaux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont immobiles. Donc c'est une contrainte majeure et il faut que le pollen soit confié à un vecteur, à un agent qui transportera ce pollen depuis les étamines, on voit ici celle du lys martagon, saupoudrée de pollen, depuis les étamines jusqu'au pistil, pour former in fine la graine.
quelques images. En particulier, Benoît vous parlera de la salicaire qui est en bas à gauche, mais pour la beauté et illustrer la diversité à la fois des structures et des modalités de dispersion. Vous avez en bas au milieu un zoom sur une fleur de mauve, à droite des ophrys, donc petites orchidées de nos pelouses sèches. En haut, au milieu, un chaton de châtaignier, et à gauche, le figuier qui mériterait, comme la plupart de ces plantes, mais le figuier en particulier, une conférence à lui tout seul, puisque c'est à l'intérieur de la figue qu'on trouve des fleurs minuscules, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Une fois que la graine est produite, comment est-elle disséminée? Comment les plantes et les espèces vont-elles gagner du terrain, occuper de nouveaux espaces avant de germer? Comment les graines vont-elles être disséminées avant de germer et de donner de nouveaux individus? Voilà, ici une photo de graines ou de fruits, si on va plus dans le détail, de 130, qui est, vous le voyez, particulièrement adapté à être véhiculé par le vent, avec ses appendices plumeux qui augmentent sa portance, et donc qui est certainement déjà un peu loin de la plante mère, mais qui en plus là se fait récupérer par une fourmi, qui va l'amener un peu plus loin, jusqu'à la fourmilière, et si elle réchappe des mandibules de la fourmi, cette graine pourra peut-être germer encore un peu plus loin de sa mère. Quelques autres exemples bien connus, le salsifis en haut à gauche, proche des pissenlits, mais avec une inflorescence et une infrutescence beaucoup plus volumineuse. Érodium au milieu, une sorte de géranium en fait, sauvage, du genre des érodiums. À droite, dont nous parlera Bertrand, la morisie, avec un système très particulier. À gauche, en bas, le concombre d'âne qui projette ses graines dans un liquide mucilagineux sous pression qui, lorsque le fruit est heurté ou tombe à maturité, est donc projeté à plusieurs mètres. C'est un jeu d'enfant d'ailleurs, assez et pas que d'enfant parfois, assez sympa, que de s'amuser avec. Et à droite, la bardane qui aurait, avec ses crochets, inspiré le créateur du velcro. Velcro voulant dire velours, velle et crochet, donc étant un système d'accrochage, parfois dénommé scratch, qui tire profit de ce système. Et pour finir, résister à tout un tas de choses, résister à la sécheresse en stockant de l'eau par exemple dans des tiges transformées en raquettes comme ici pour cette opuntia, résister à la sécheresse et aussi à la dent des herbivores par la présence d'épines, de piquants de toutes sortes, résister au feu pour le chêne-liège avec son écorce épaisse et isotherme, résister à la sécheresse à nouveau par la production d'essences aromatiques chez le thym, une feuille de thym profondément grossie ici avec des glandes sécrétrices des essences aromatiques, résister à la sécheresse accrue par la salinité chez la salicorne dans les abords des étangs, des lagunes, résister encore à la sécheresse de milieux bien particuliers que sont les rochers ou les vieux murs pour le nombril de Vénus, résister à des conditions plus ou moins difficiles par une association entre des algues et des champignons qui crée un organisme unique chez les lichens. Et enfin, Bertrand vous parlera des modes de résistance par parasitisme, tout simplement, et ici des plantes carnivores avec les droséras. Voilà, donc Benoît pour poursuivre sur la partie se tenir et croître.
Bon. Applaudissez-le bien fort parce qu'il a été au centre de la coordination. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux la suivante. Voilà. Alors, la botanique, c'est quelque chose de très très simple. Il n'y a que trois organes dans une plante. Il y a la racine, la tige. Est-ce que je peux avoir l'ombre là? Non, c'est pas possible. Bon, la tige, et sur la tige, des feuilles. À l'aisselle des feuilles, il y a quelquefois des rameaux. Mais les trois organes, c'est racine, tige et feuille. Alors vous me direz, mais il ne faut pas rigoler quand même. Une fleur, c'est quand même un organe. Non, la fleur n'est pas un organe, c'est un appareil. C'est-à-dire qu'il y a des agencements entre tige, feuille et pour le coup par racine. Bon. Alors, la racine, d'une façon générale, elle se développe vers le bas. Elle est dépourvue de chlorophylle. Elle aura plutôt tendance à pomper l'eau et les sels minéraux dans le sol. La tige, elle se développe en général vers le haut. Elle a des feuilles qui poussent tout autour de, qui se emplacent tout autour de la tige. Et puis quelquefois, la tige se ramifie en donnant des rameaux latéraux qui sont, au lieu de se diriger tout à fait en haut, ont tendance à se diriger latéralement. Bon, ces trois petits dessins-là. En haut, à gauche, vous avez la disposition la plus classique des feuilles autour de la tige. C'est-à-dire que vous avez une disposition en spirale qui compte 5 feuilles avant que la première feuille dont vous êtes parti soit superposée à la feuille suivante sur la même ligne de la tige. Vous voyez que cette organisation, on la voit d'en haut, les feuilles se laissent entre elles le maximum de place pour recevoir la lumière du soleil, qui en général vient d'en haut. Il y a plusieurs, ça s'appelle une phyllotaxie, la façon dont les feuilles se trouvent autour de la tige. Alors, la plus fréquente, c'est la phyllotaxie aux 2/5 qui est à gauche. Celle qui lui fait suite, c'est une phyllotaxie où 2 feuilles sont au même niveau. Les 2 feuilles de supérieures sont en croix. Donc, quand vous regardez une tige d'en haut avec ce système, vous avez un système en croix. Comme vous voyez, là aussi, même si elles sont au même niveau, les feuilles laissent à chaque fois le maximum de place au rayon du soleil pour arriver à celle du dessous, n'est-ce pas? Et puis, alors, vous pouvez avoir trois feuilles au même niveau, et dans ce cas-là, vous avez une étoile à 6 branches quand vous regardez le truc d'en haut. Bon. En quoi est-ce que ça nous concerne? On va voir. Les rameaux latéraux, eux, au lieu de se développer vers le haut, souvent se développent vers l'extérieur. C'est d'ailleurs le chef là-haut qui se trouve au sommet de la tige qui indique aux rameaux qui poussent sur la tige à l'aisselle des feuilles qu'il ne faut pas lui faire concurrence, il faut se développer latéralement. Bon. Donc, dans ce cas-là, là, c'est vu de dessus, les feuilles sont alternativement, avec le même système, alternativement, elles sont à droite, à gauche, à droite et à gauche de la tige. Et dans le cas où les feuilles sont opposées décussées, comme le deuxième cas, eh bien, vous avez la figure suivante. Très souvent, d'ailleurs, les feuilles qui sont sur les rameaux latéraux, qui ne se développent pas verticalement, les feuilles sont différentes de forme de celles qui poussent sur la tige. Donc, Bon, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je veux bien l'image suivante. Alors, le lierre. Le lierre. Alors, le lierre est une plante en général mal aimée parce qu'elle pousse partout, elle dégrade les murs, elle tue les arbres, etc. C'est probablement pas vrai. Et probablement pas vrai du tout. Quand les murs sont bien construits, on a toutes les peines du monde à faire pousser le lierre dessus. Il faut qu'il ait des aspérités où il puisse pousser. Quant aux arbres qu'il condamnerait, des recherches modernes par les gens de Dijon semblent montrer que des forestiers dijonnais, que en fait le lierre ne devient envahissant sur un arbre que quand l'arbre commence vraiment à faiblir et qu'il est en fin de course. Donc c'est évidemment difficile de confondre, puisque souvent on voit du lierre sur des arbres qui sont crevards, et on se demande si le lierre n'a pas fait crever l'arbre. Mais apparemment, quand on est moderne, on pense que le lierre n'a pas fait crever l'arbre, que c'est l'arbre qui est fatigué et que le lierre en a profité pour monter un petit peu plus haut. Bon. Cette petite image a l'air d'avoir... Non, j'ai pas donné l'image de droite. C'est toi. Recommence pas, hein. Bon. Donc, l'image de droite, c'est pour vous montrer une chose qui a l'air d'avoir absolument aucun rapport avec le truc. C'est que, au pied de l'arbre, là, je sais pas ce que c'est. C'est probablement un pin. Mais, vous voyez que la neige a fondu. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'arbre a reçu de la lumière pendant la journée, qui s'est réchauffée, et que pendant la nuit, il a rayonné cette chaleur et qu'il a fait fondre la neige. Alors, en quoi est-ce que ça concerne le lierre? Ça concerne le lierre dans la mesure où le lierre est une plante qui a des feuilles relativement molles, comme un arbre à feuillage caduc. Alors que les arbres à feuillage persistant, ordinairement, qui ont besoin de garder leurs feuilles solides pendant qu'il y a plus d'eau en été, des arbres méditerranéens, comme le chêne vert, comme le chêne kermès et tant d'autres, ont un feuillage persistant, qui leur permet de profiter du début d'été et de la fin de l'été pour faire de la photosynthèse, puisqu'ils ne peuvent pas la faire pendant l'été où il n'y a pas d'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de photosynthèse. Alors, là je vous donne une image. Vous avez des arbres à feuillage persistant, par exemple les arbres de Noël, par exemple les sapins de Nordman que vous achetez. Vous les laissez pendant 15 jours dans votre appartement surchauffé. Ils ne bougent pas d'un poil. Ils sont aussi verts au bout de 15 jours qu'ils l'étaient avant. Et vous ne les avez même pas mis dans l'eau. Donc ils sont vraiment équipés pour faire semblant de rester encore en vie alors qu'ils sont parfaitement secs. Et vous le savez qu'ils sont parfaitement secs si jamais vous approchez une allumette ou que vous mettez votre branchage dans la cheminée et vous verrez que ça flambe, ça explose littéralement. Donc, je rappelle ça pour dire que les arbres, j'en profite pour placer un truc là, les arbres pendant l'été, qui sont des arbres de nos garrigues, quand il n'a pas plu pendant 2 mois et qu'il a fait 35 degrés pendant 15 jours, ils sont absolument secs. Et que par conséquent, les fumeurs qui balancent un égo, eh bien, ils peuvent parfaitement mettre le feu comme vous mettez le feu à votre sapin Nordman tout sec. Et c'est ça qu'il faut bien réaliser. J'en profite parce que je sais qu'il y a parmi vous, vous êtes trop nombreux pour qu'il n'y ait pas des gens qui se baladent dans la forêt en été. Savoir que un mégot qui normalement ne met jamais le feu nulle part peut mettre le feu à la forêt. Bien, ça c'est une incidence que je voulais placer. Vous comprenez, je profite de la moindre occasion pour placer ma camelote. Non, mais on change de tableau quand je le demande, pas avant, hein. Ah bon, pardon. Alors bon, ce que je voulais dire ici, c'est que le lierre, lui, a des feuilles de plantes à feuillage caduc. Des feuilles tendres. Les feuilles, elles sont pas dures comme les feuilles de chêne vert. Et pourtant, il a un feuillage persistant. comme le chêne vert. Alors, comment est-ce que c'est possible, ça? C'est possible parce que, en fait, en été, le lierre qui est sur l'arbre, il n'a pas beaucoup de lumière parce que l'arbre lui fait de l'ombre. Donc, il ne peut pas fonctionner vraiment très beaucoup. Et en hiver, alors là, il est en pleine lumière, mais il fait froid. Oui, mais seulement, il est sur l'arbre, et sur l'arbre, ça le réchauffe. Parce que, et voilà comment le lierre peut vivre l'été et l'hiver avec des feuilles d'un feuillage caduc normalement. Mais le feuillage est persistant. Le lierre est une espèce de truc à l'envers. Bon, je veux bien le suivant maintenant. C'est toi qui commandes. Bon. Alors, ce qui sort de la graine, c'est normalement, ça devrait être une tige verticale. C'est pour ça que je vous ai montré le truc. Mais en fait, c'est pas du tout une tige verticale qui sort. C'est une tige horizontale. C'est une tige horizontale qui a la faculté de s'enraciner par des racines qu'on appelle des racines adventives, parce que normalement, c'est pas permis de faire des racines sur la tige. Donc, cette tige développe des racines adventives, en général juste en dessous de l'endroit où il y a, où se positionne la feuille. Et pour, si c'est sur le sol, eh bien, ces racines s'enracinent et donc nourrissent la plante qui continue et qui a la particularité, pour une plante rampante, d'avoir des besoins de, comment dire, de grandeur, n'est-ce pas, et qui, dès qu'elle rencontre un obstacle, automatiquement, hop, elle monte, mais sous sa forme de rameau latéral, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, paradoxal. Vas-y, tu me donnes la suite. Voilà. Ensuite, dès qu'il trouve donc un obstacle, hein, où il peut monter, eh bien, il se développe, et au bout d'un certain temps, là, le dessin laisse penser que c'est rapide, mais en fait, en général, il faut qu'il soit monté assez haut, au bout d'un certain temps, à l'aisselle des feuilles, apparaissent des rameaux, mais des rameaux qui sont très différents, qui, au lieu d'être des rameaux de forme couchée, sont des rameaux de forme dressée. C'est ce qu'on appelle des rameaux adultes, qui n'ont plus de crampons pour s'accrocher. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que ces racines adventives ici, qui s'enfoncent dans le sol, eh bien, ici, elles sont transformées en crampons qui se cramponnent aux aspérités. Mais par contre, il ne faut pas que vous pensiez que ces racines adventives vont prendre de la nourriture à l'arbre. Ça ne pénètre pas dans l'écorce, ça s'accroche. Et la preuve, c'est que quand ça monte sur un mur, ça s'accroche sur les aspérités du mur. D'ailleurs, quand vous avez un mur lisse, quand vous avez un mur comme ça, vous pouvez toujours essayer d'attendre que le lierre y monte. Il peut pas, il n'a pas la possibilité quand c'est lisse. Il y en a un grand lierre qui est monté chez nous sur un mur qui était tellement lisse que j'ai été obligé de le clouer avec des clous d'électricien pour qu'il accepte de monter petit à petit. Donc le lierre est beaucoup plus gentil qu'on pourrait le penser. Alors, ces rameaux, c'est si vrai que quand vous retrouvez, par exemple, sur le haut d'un mur, vous retrouvez le rameau principal issu de la graine qui est rampant, et vous avez des rameaux dressés comme des petits arbres de lierre sur le haut du mur. Ces petits arbres, je peux avoir la suivante? Tu vois, je me vais vite là. Voilà la forme. La forme rampante et la forme dressée ici avec les fleurs à gauche en haut, les fruits et les inflorescences avec, vous le remarquez peut-être, des feuilles sur les rameaux dressés, les rameaux dits adultes, qui sont différentes de celles qui sont sur les rameaux rampants. Alors, cette histoire de racines, hein, qui nourrissent le lierre. J'avais cru quelque part avoir lu que les racines adventives étaient tellement essentielles à la vie du lierre que la racine principale ne se développait pas. La racine issue de la graine ne se développait pas. Alors, il y a notre référent scientifique, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais non, c'est pas vrai du tout. Il y a tout à fait une vraie racine. Alors, comme il y avait plein de petites germinations de lierre, j'ai voulu mettre à l'épreuve Jean-Pierre, et donc j'ai mis ça dans une bouteille. Vous voyez, il y a trois petites feuilles. Voyez qui avait raison de nous deux. Moi, je n'avais que des références littéraires dont je ne suis même plus sûr. C'était peut-être une idée que je m'étais faite. Et là, bon, ben Jean-Pierre, c'est un cadeau que je te fais puisque c'est toi qui as raison et contre moi. Bon, alors, les lierres, c'est un truc à l'envers. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est aussi un truc complètement à l'envers dans son rythme de floraison et de fructification. Il fleurit tout à fait en fin d'automne, à un moment où il y a beaucoup moins de fleurs. Et je peux vous dire que les abeilles, elles s'en donnent à cœur joie. C'est un vrombissement dans le lierre qui est à côté de chez nous. C'est un vrombissement à peu près à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. Et les fruits, eux, se développent tout à fait au début de l'hiver. C'est-à-dire que à un moment aussi où il y a assez peu de fruits dans la nature. Mais si vous voyez les fourrettes à tête noire, comme elles se régalent de ces fruits, vous comprendriez que il y a un créneau pour le lierre à ce moment-là. Parce que il est à peu près le seul sur le marché, donc c'est très très efficace. Cela dit, moi j'ai goûté des trucs de lierre parce que je voulais savoir comment c'est. Je vous recommande pas, hein. C'est très mauvais et j'ai eu des vapeurs après, donc c'est pas un bon plan. Bon, je peux avoir la suivante. Alors, plus sérieux, hein, la salicaire et la façon de se reproduire. Alors la salicaire est une plante qui est connue depuis très longtemps. C'est une plante qui pousse dans les lieux humides, au bord des eaux calmes, mais aussi dans les prairies qui sont humides de temps en temps, qui a des belles fleurs roses foncées et qui est très connue comme plante médicinale. Héroïque, elle est elle arrête le sang de couler, et c'est une médicinale connue depuis très très longtemps, et elle a d'autres propriétés comme d'autres choses. Bon, je peux avoir la suivante. Alors voilà une photo, un dessin de Amédée, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Masclef, Amédée Masclef, qui représente une salicaire. Masclef est un admirable dessinateur qui a fait ça pour Gaston Bonnier et consorts, et qui a donc fait toute une série de planches où on voit systématiquement la fleur coupé. Cette planche a été faite environ une vingtaine d'années après les travaux de Darwin sur la salicaire. Cette planche vous montre à gauche en haut la coupe de la fleur de salicaire et vous voyez, merci beaucoup, hein, en haut un stigmate et deux niveaux d'étamine au milieu et en bas. Donc, le stigmate est le plus haut et puis les étamines sont... Voilà. Je peux avoir la suivante ? En réalité, c'est pas ça du tout. et ça Darwin l'avait vu avant, et plus de 20 ans avant il avait fait un topo là-dessus. En fait, si on regarde un pied de salicaire, on a une forme comme celle que Mascaref a dessinée, mais si on en regarde un grand nombre de pieds de salicaire, on s'aperçoit que en fait, il y a trois formes florales. Là où c'est le plus visible, c'est en bas à droite. Vous voyez qu'il y a un niveau où se trouve le stigmate, qui est raccordé naturellement à l'ovaire qui se trouve en bas. Un niveau intermédiaire d'étamine et un niveau en bas d'étamine. Dans l'image qui est au-dessus, c'était un peu moins visible, mais vous voyez qu'il y a un niveau ici. Attends, c'est le stigmate qu'il faut que tu me trouves d'abord. Le stigmate est là. Le stigmate est là, oui, si tu... Non, parce qu'il est le niveau d'étamine. Si, bon, ben alors mettons, le stigmate est là, pardon. Le stigmate est là, il y a deux niveaux d'étamine, on les voit un peu moins bien, et un niveau d'étamine en haut. D'accord. Donc il y a... c'est un peu moins visible là, c'est pour ça que je me prends les pieds dans le tapis. Donc le stigmate est en bas, il y a deux niveaux d'étamine, celui du milieu et celui du haut. Excusez-moi. Alors la troisième, vous avez toujours les deux niveaux d'étamine, mais un niveau plus bas et un niveau en haut. Autrement dit, le stigmate chez les différents individus ne se trouve jamais au même niveau que les étamines de la même fleur. Et en fait, il y a deux choses à dire sur ces fleurs. La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est une fleur rouge. Or, les fleurs rouges, elles ne sont pas très fréquentes dans nos flores, tout simplement parce que les insectes ne voient pas le rouge. Et que pour eux, c'est pas une couleur très attractive. Le coquelicot fait exception, mais là, je ne vais pas vous lancer dans cette démonstration. Donc, en fait, quel a été le travail de Darwin? Le travail de Darwin, ça a été de montrer que, en fait, il essaye d'abord de féconder, mettons la forme en haut à gauche, avec du pollen, des grandes étamines et des étamines courtes. Ça donne rien. Il prend des individus de salicaire différents qui ont la même formule. Il croise, il va mettre du pollen d'un individu sur le stigmate d'un autre individu de même formule. Ça donne rien. Et c'est vrai pour toutes les figures. C'est-à-dire que en fait, on peut penser que, effectivement, la fleur elle-même n'est pas pollinisée par son propre pollen, mais elle n'est pas non plus pollinisée par les pollens qui correspondent dans d'autres individus exactement à la même formule. Alors, l'autre expérience que fait Darwin, ça consiste à prendre un type et à polliniser sur un type différent, et alors à ce moment-là, ça donne de très bons résultats. Alors, en dehors de son expérience, il avait un pied de salicaire au fond de son jardin. Et son pied de salicaire, il avait des capsules. Et il n'y avait qu'une seule salicaire. Il y avait des capsules, donc elle était voir dans ça. Et en fait, ces capsules, il n'y avait pas de graines dedans. C'est-à-dire que la plante est absolument... Bon, elle réprouve l'inceste, tout simplement. Alors, Ce qui est intéressant aussi, et ce qui est très plaisant dans cette affaire, c'est que vous voyez la deuxième image du haut, à droite. Hein. Vous voyez que les étamines, les grandes étamines, sont différemment colorées des deux autres niveaux d'étamines. Et non seulement elles sont pas colorées comme ça, mais en plus leur pollen est vert, alors que celle des autres est jaune. Alors, on voit bien que l'animal qui vient sucer du nectar, là, il s'enfonce au fond, et qu'il y a un niveau qui lui met du pollen sur la tête, un niveau qui lui met du pollen sur le thorax, un niveau qui lui met du pollen sur l'abdomen. Et si on n'en était pas sûr, parce qu'en fait il y passe, eh bien, la couleur du pollen des étamines longues, la couleur verte, eh bien, on la retrouve toujours sur l'abdomen. Donc, vous voyez cette espèce d'obsession de l'inceste. Hein, on invente n'importe quoi, alors que ça aurait été si simple de séparer tout simplement les sexes. C'est ce qu'on a fait, nous. Hein. C'est, bon, ça pose des problèmes, mais c'est quand même ce qu'on a fait. Bon, je crois que c'est fini. Hein, j'ai pas d'autres images.
Merci Benoît. Non, je crois qu'effectivement, c'est à Bertrand.
Bonsoir, je prends la suite. Donc, Benoît vous a présenté le premier chapitre, se tenir et croître, le chapitre second, être pollinisé. Je prends la suite sur disperser ses graines. Donc là, on trouve une plante. Jean-Pierre vous a présenté les différents modes assez classiques de dispersion des graines par le vent, par les animaux, etc. Moi, je vais vous présenter des particularités. C'est-à-dire, là, on a un trèfle qui fait des fleurs. Qui fait ses petites fleurs au bout d'un pédoncule. Quand la fleur est pollinisée, il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire que le pédoncule qui s'allongeait vers le haut pour mettre vers le haut la fleur, ce pédoncule va s'allonger et aller vers le bas et aller enterrer la fleur fécondée de façon à enterrer les graines qui vont être produites par ces fleurs. On voit un détail ici de ce pédoncule allongé vers le bas qui va enterrer ses graines et ce qui lui vaut le nom de trèfle semeur ou trèfle enterreur. Donc là, c'est une plante qui vraiment prend soin de ses graines et qui va les porter en terre. Alors un deuxième exemple de ce type de comportement, en fait ce comportement d'aller planter les graines par la plante, on le retrouve au niveau mondial chez une dizaine d'espèces, dont les arachides, les cacahuètes. Et on le retrouve aussi chez cette plante. Alors cette plante, elle est vraiment curieuse. C'est une plante qu'on trouve en Corse et en Sardaigne. C'est une plante qui est protégée, endémique, et qui a vraiment plusieurs particularités. Alors je reviens un petit peu en arrière sur la pollinisation. Vous voyez ici avec la petite brindille et l'ombre de la petite brindille, en fait là cette plante elle est sous l'eau et elle fait des fleurs sous l'eau. Donc c'est une plante qui vit dans des petites rivières temporaires. Donc elle peut très bien fleurir sous l'eau. Et la photo suivante montre qu'elle peut très bien aussi être en milieu aérien. Et dans les deux cas, elle est pollinisée, c'est-à-dire que là, une plante ne va pas pouvoir s'auto-polliniser, comme dans le cas de la salicaire, mais elle va disperser son pollen dans l'eau, et son pollen va aller sur une autre plante, et là, la pollinisation va pouvoir se faire. Dans les airs, elle va être pollinisée classiquement par les insectes, ici une petite abeille, un petit hyménoptère. Et actuellement, les recherches sont en cours pour savoir quelle est la structure des grains de pollen qui à la fois peut disperser dans l'eau et peut être collecté sur les petites pelotes des hyménoptères. Alors, je reviens sur le chapitre dispersion des graines. Donc, on a une plante qui a deux modes de vie, finalement, dans l'eau, dans l'air. Donc ça, c'est un petit peu compliqué pour disperser ces graines. Donc on a un peu le même système que le trèfle souterrain, c'est-à-dire que la fleur va être au bout d'un petit pédoncule. Une fois qu'elle est fécondée, la plante va avoir un comportement quasi animal. C'est-à-dire que le pédoncule va s'allonger, aller vers le bas, mais parfois elle va rencontrer l'eau. Et là, c'est intéressant d'avoir des films parce qu'on voit ce pédoncule qui s'allonge, qui touche l'eau, puis qui recule, ça ne lui plaît pas. Il va réessayer, il retouche l'eau, ça ne lui plaît pas. Et là, il va faire quelque chose d'assez bizarre. Le seul endroit, finalement, qui lui est familier et où la graine va pouvoir se fixer, bah, c'est en elle-même. C'est-à-dire qu'elle va... Là, on voit tous les pédoncules qui sont revenus planter la graine à l'intérieur du pied. Et pour être dans une extrême délicatesse, plutôt que de planter avec l'organe assez pointu dans la racine principale, au dernier moment, la plante va se retourner et appliquer quelque chose de beaucoup plus doux. Et donc là, on voit ici la plante, le pédoncule qui s'est retourné, et on voit la petite plantule qui va sortir. Et donc là, on voit l'enchevêtrement de racines avec tous les pédoncules qui correspondent à des fleurs pollinisées. Donc une plante très curieuse, la morisie. Alors passons au dernier chapitre, résister. Et là, donc là encore, différentes formes de résistance à la sécheresse, à des milieux pollués, à des milieux secs, à des milieux froids, à des milieux salés, etc. Là, c'est une façon particulière de résister, c'est-à-dire que on s'occupe plus de faire la photosynthèse, c'est trop compliqué. On devient parasite, mais parasite total. Alors, total parce qu'il y a certaines plantes qui sont partiellement sur ce chemin, qui sont des parasites partiels, comme les rhinanthes, les mélampyres, les odontites, qui elles vont se spécialiser sur un type de plante, qui vont pomper une partie de la sève, mais qui reste verte quand même, et qui vont aussi faire du sucre et tout un tas de molécules complexes à partir de la photosynthèse. Là, il n'y a plus de chlorophylle. Donc plus de photosynthèse, donc plus de sucre produit par la plante. Comme il n'y a plus le pigment chlorophylle, la plante n'est plus verte. La plante est violette. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur cette plante, la cuscute, donc aux tiges vertes. On n'a plus de chlorophylle, donc on n'a pas besoin d'avoir des grandes surfaces pour fixer le CO2 de l'air. Et donc on n'a plus besoin de feuilles. Donc la cuscute, c'est simplement des tiges qui s'enchevêtrent sur la plante hôte et qui produisent ces petites fleurs en pompons. Alors là, contrairement aux lierres, là on va émettre des suçoirs qui vont aller chercher la sève de la plante hôte. Et donc là on voit la plante qui s'enroule, qui augmente vraiment la surface de contact avec la plante hôte. Et d'où tous ces enchevêtrements de filaments. Alors c'est dommage, je voulais vous présenter un petit film, parce que cette plante elle a un petit souci quand même. Elle produit des fleurs qui naturellement vont produire des graines. Mais la graine est face à un défi. Alors, je ne sais pas ce qui... Voilà, c'est ce petit noir. Voilà, la plante, la graine a un défi. Elle n'a pas de chlorophylle. Donc, elle ne peut pas faire de sucre. Et donc, pour grandir, ça va être compliqué parce que le pari qu'elle fait, la graine, c'est d'être capable de retrouver la plante hôte pour vite pomper la sève de la plante hôte. Et donc, ce petit film, il vous présentait un pied de tomate. Alors le petit film, il est accessible dans le livre, vous allez à la rubrique pour en savoir plus, et vous avez le site internet où vous pouvez visionner ce film. Sur ce film, on voyait un plant de tomate et la cuscute de solanacée, et notamment de la tomate, où on voit la graine qui donc ne va pas faire de racines, ne va pas puiser d'éléments dans le sol, mais tous les éléments nutritifs de la graine vont servir pour faire une plantule qui va s'élever. Alors, je ne sais pas, vous avez sûrement vu les films de plantes comme ça sur plusieurs jours. Elles tournent comme ça. Donc, elles tournent, et elles se rapprochent petit à petit de sa plante hôte. Et puis, on la voit qui s'approche, et dans un dernier mouvement quasiment, elle va s'enrouler autour de sa plante hôte. Alors, ça intrigue aussi beaucoup les chercheurs. Pourquoi elle se dirige vers la plante hôte? Quel est le processus derrière? Et là, le processus proposé est un petit peu complexe, c'est-à-dire, vous savez que dans les plantes, il y a des hormones de croissance qui vont, si tout se passe bien, propulser la plante vers le haut, assez verticalement. Ces hormones vont être sensibles à certains composés qui diffusent dans l'air, c'est-à-dire les composés olfactifs, l'odeur de la plante. Et ces hormones de croissance vont être sensibles à cette odeur. Et donc, la cuscute, finalement, eh ben, elle va pousser, mais elle va pousser en direction de la plante hôte. Donc, c'est quand même un mécanisme assez compliqué, tout ça pour pouvoir assurer cette stratégie de parasitisme total. Alors, d'autres cas de parasite total. Ici, on voit le panicot, donc ici. On peut le trouver en garrigue ou sur les causses. Et on voit le robange du panicot. Donc, même principe, pas de feuilles, une tige assez violette, puisqu'il n'y a pas de pigment vert, et puis une plante qui continue à effectuer sa reproduction. Alors là, on ne s'enroule pas autour de la plante hôte, mais on émet un suçoir. Donc là, ça va se passer sous la terre. Et là, cette photo nous montre le détail de ce suçoir qui va pomper la sève de ce panicot. D'autres exemples. Alors là, ce sont des plantes qui ne font quasiment plus de tiges. Là, on voit une plante qui ne laisse apparaître du sol que ses fleurs, que cette partie reproductrice. Donc là, c'est la lâtrée clandestine, aux allures de vampire, et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'elle est, un vampire, puisqu'elle va pomper la sève à sa plante hôte. Donc là, c'est une plante qu'on trouve près des rivières, sur des zones, des saules, et puis sur certaines conditions humides, sur des noisetiers aussi, si c'est possible. Deux autres vampires, là, on a des citinés. Alors, eux, ils sont spécialisés sur des cystes. Donc, vous voyez, toutes ces plantes, elles sont dans des relations assez imbriquées, assez intimes avec la plante hôte, elles sont spécialisées sur un groupe de plantes. Donc là, on a des citinés, donc qui est comme le robanche, émettent un suçoir qui va pomper la sève en milieu souterrain. Et donc là, on a un citiné qui est spécialisé sur des cystes à pétales roses, des cystes cotonneux, et un autre citiné qui va, lui, être spécialisé sur d'autres cystes, mais plusieurs espèces de cystes. Voilà. Et pour finir, une plante curieuse, une plante carnivore, qui est très colorée et qui nous vaut la couverture de cet ouvrage. Donc, là, ces plantes carnivores vivent dans des milieux vraiment très difficiles. Le pH est très faible, un pH de 4, de 5, donc c'est vraiment très acide. Et un milieu souvent très humide, donc là on voit des mousses, des sphaignes qui retiennent l'eau. Et ça c'est souvent des conditions difficiles pour se développer. D'ailleurs il y a très peu d'espèces qui se développent dans ce type de milieu. Et là ne vous y trompez pas, ce sont des feuilles. Donc imaginez-vous une plante classique avec des feuilles, il y a souvent des petits poils. Et bien au cours de l'évolution, ces poils ont évolué, ont grandi et ont acquis au cours de l'évolution une glande au bout de ces poils. Alors cette glande va émettre deux types de composés, qui ont été, un des deux d'ailleurs a été identifié très récemment en recherche. Il y a deux types de composés. Un premier qui est un glucoside, c'est un sucre qui va permettre, donc c'est un sucre qui va rendre visqueux la substance qui est dans cette gouttelette et qui va finalement permettre la capture de l'insecte puisque l'insecte va s'empêtrer dans ce composé-là et ne va plus pouvoir s'en détacher. Donc ce composé-là va fixer l'insecte sur la feuille. Et puis les autres types de composés, c'est des enzymes digestives tout simplement, qui vont permettre à la plante de lentement acquérir les éléments de cet insecte, puisque ce milieu a une particularité, il est très pauvre en azote. Et une des façons pour la plante d'acquérir de l'azote, donc azote pour faire des acides aminés, donc pour faire des protéines, une des façons pour faire acquérir cet azote, c'est de capturer ces insectes. Mais quand même, c'est un petit peu schizophrène tout ça, puisque c'est une plante. Donc elle va faire des fleurs pour produire des graines. Et alors d'un côté, la fleur va attirer les insectes. Et tout l'intérêt d'attirer les insectes, c'est qu'ils puissent repartir avec du pollen pour aller polliniser d'autres fleurs. Mais sur cette même plante, on a un autre organe qui, lui, tout son intérêt, c'est de capturer les insectes et que les insectes y restent le plus longtemps possible pour pouvoir en tirer la substantifique moelle. Donc pour résoudre cette schizophrénie apparente, trois stratégies au niveau mondial parmi l'ensemble des espèces carnivores. Il y a un groupe de plantes qui se spécialise, c'est-à-dire qui va attirer sur sa fleur des insectes différents des insectes qui seront attirés sur ses feuilles. Donc là, il y a une séparation dans l'attraction. Une autre stratégie, c'est de faire une séparation dans le temps. C'est-à-dire que la fleur va apparaître à un moment donné où il n'y a pas de feuilles, et ensuite les feuilles vont apparaître et pourront capturer tranquillement les insectes. Et puis la dernière stratégie, c'est celle adoptée par cette Drosera rotundifolia, c'est-à-dire une Drosera à feuilles rondes. L'autre stratégie, c'est de faire une séparation spatiale. C'est-à-dire que cette petite plante, hein, c'est quand même assez discret dans les tourbières, cette petite plante doit avoir une tige étonnamment longue pour émettre sa petite inflorescence là. Et donc ça va permettre à la plante de séparer spatialement l'endroit où les insectes vont pouvoir venir effectuer la pollinisation de l'endroit où les insectes vont être capturés par la plante. Pardon ? Alors parfois c'est le même. Et on arrive sur cette jolie photo de couverture. Alors là, elle est un petit peu coupée, mais vous regarderez dans ce coin-là, il y a une petite tache noire qui est vraiment assez petite et qui en fait est la réduction, à l'exemple des gibarots, la réduction de la mouche. C'est-à-dire que la mouche va occuper un petit espace comme ça et c'est une ancienne mouche qui était digérée par la plante. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Jean-Pierre qui va conclure.
Merci Bertrand.
Avant de conclure, je ne sais pas si on aura le temps pour quelques questions, on a un peu débordé, mais je voulais quand même proposer à Philippe discret, qui nous a dit honneur à la botanique plus qu'aux photos ce soir, mais il manie bien le verbe aussi, donc quand même de nous dire deux petits mots.
Bonsoir. Bien, en fait, je voulais préciser en fait que l'essentiel des photos ont été prises par John Walsh. Pour ma part, je n'ai fait que des images composites, qui sont des illustrations composées chacune de plusieurs dizaines d'images, comme vous disait Jean-Pierre tout à l'heure. Donc l'intérêt, on pourrait dire didactique, c'est que depuis 42 ans, quand j'étais au lycée Joffre et que j'ai commencé la macrophoto, je faisais des photos floues. Et que depuis 3 ans seulement, donc depuis juillet 2008, j'arrive à faire des images nettes. Voilà, donc il ne faut pas être jaloux, hein, c'est pas du tout le même principe. C'est de l'optique, mais il y a un apport numérique tout à fait considérable. Voilà. Donc, écoutez, longue vie à ce livre qui est vraiment extraordinaire.